Dimanche 10 décembre 1978, 11e leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise rue Saint-Honoré à Paris.
J'avais l'intention pendant l'Avent de vous parler des personnages de l'Avent, parce qu'il y en a un certain nombre. Pas de tous, il faut faire un choix. Il y a par exemple Abraham, c'est le premier qui se présente. Ensuite, nous pourrions dire Isaïe, le prophète Isaïe. Et puis, il y a Jean-Baptiste. Et il y a surtout la Sainte Vierge. Et de peur de ne pas avoir le temps de parler de la Sainte Vierge, je commencerai par elle, alors que c'est par elle que je devrais terminer. La Sainte Vierge, c'est le personnage de l'Avent. En particulier, pendant les 9 mois durant lesquels elle a attendu le Messie. Elle l'a attendu avec une ferveur que ne pouvons même pas nous imaginer. Alors nous parlerons de la Sainte Vierge. Je vais vous dire tout ce que je sais sur elle, c'est-à-dire peu de choses finalement. Et je le regrette. Peu de choses, je veux dire, en comparaison de la réalité. Commençons par les figures, par les types, puisque nous parlons de types, n'est-ce pas ? La liturgie nous les indique. Quelques-uns, là en particulier, peuvent ou pourraient vous paraître choquants. Il s'agit de Judith. Dans l'office de la Sainte Vierge, il y a des textes qui sont tirés du livre de Judith. Vous vous rappelez l'histoire de Judith ? C'est une histoire un peu atroce. Enfin, pour nous autres qui sommes raffinés, tout au moins dans notre compartiment extérieur, avoué. La ville de Béthulie était assiégée par un nommé Holoferne, qui était une brute. Tout était perdu. Il n'y avait plus d'espoir qu'en Dieu. Et Judith, une sorte de Jeanne d'Arc un peu sauvage, qui était veuve, quitta les vêtements de son veuvage, se para, se rendit au camp d'Holoferne avec une servante, se fit introduire dans sa tente et il fut charmé par sa beauté. On se mit à boire, et quand Holoferne eut bien bu, il perdit conscience. Alors Judith tira de son sac un grand couteau, elle égorgea Holoferne, lui coupa la tête, la mit dans son sac, rentra dans la ville et fit clouer la tête sur la porte de la ville. Le lendemain, les troupes du général décampaient. Voilà un type de la Sainte Vierge. Vous connaissez peut-être d'ailleurs le texte qu'on emploie le plus volontiers à son propos. Tu gloria Israël, tu laetitia Jérusalem, tu honorificentia populi tui. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie d'Israël, tu es l'honneur de ton peuple. Nous ne sommes d'ailleurs pas trop sûrs que cette Judith ait existé. Mais en tout cas, elle symbolise le courage et la confiance en Dieu. Et en tout cas aussi, elle sauve le peuple de Dieu par son courage et par sa confiance. Et c'est en cela que Judith est un type de Marie. Marie est une personne très très courageuse, vous savez. Nous pouvons nous la représenter comme nous voulons, mais n'oublions rien de ce qu'elle est. Elle est douce, elle a une âme très très belle, elle est magnifique, elle est très puissante, elle est très bonne, elle est très miséricordieuse, mais elle est très courageuse. Très très courageuse. Essayez de vous la représenter au pied de la croix. Et il y a des quantités d'autres détails que je ne signale pas. Alors voilà Judith. Et puis, je crois que les types, les figures les plus employées dans la liturgie, en ce qui concerne la Sainte Vierge, bien c'est tout simplement le peuple d'Israël lui-même, ou bien Jérusalem. Pendant des siècles, Dieu s'est préparé à un peuple, comme on élève un enfant, en corrigeant ce peuple, en le punissant, en le favorisant, en le récompensant, en éliminant tout ce qui n'allait pas, et il y en avait des choses qui n'allaient pas. Et pour arriver à qui ? Eh bien, disons pour résumer à la Sainte Vierge, des siècles d'éducation, des siècles de châtiment, de tendresse, des siècles de gloire pour arriver à ce petit résultat, qui s'appelle la Sainte Vierge. Et il y avait bien sûr autour d'elle un groupe de personnes très bien. Il y avait Saint Joseph, il y avait les apôtres, il y en avait quelques-uns comme ça, il y avait les premiers chrétiens. Mais c'est la Sainte Vierge qui est la perfection, c'est la réussite de l'éducation divine. Si bien que tout ce que l'Écriture, tout ce que l'Ancien Testament nous dit de Jérusalem, tout ce que l'Ancien Testament nous dit d'Israël, tout ce que l'Ancien Testament nous dit du Temple, peut être appliqué à la Sainte Vierge. Et nous ne pouvons que regretter que ce soit si pauvre, je veux dire, ces figures, en comparaison de la réalité. Par exemple, dans les vêpres de la Sainte Vierge, on utilise un certain nombre de psaumes. Vous pourrez regarder dans vos missels où il y a les vêpres, probablement. Eh bien, vous apercevrez que ces psaumes concernent Jérusalem. Lauda Jérusalem Dominum, Lauda Deum Tuum Sion. Jérusalem, loue le Seigneur. Célèbre ton Sauveur au Sion. Il s'agit de la Sainte Vierge. C'est Jérusalem dans sa perfection, la Sainte Vierge. C'est la seule qui soit vraiment Jérusalem. Et puis alors, il y a ce psaume, l'Etatus sum inisque dicta sunt mihi, je me suis réjoui quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Jérusalem, construite comme une ville magnifique dont les maisons se tiennent les unes les autres. C'est la Sainte Vierge tout cela. C'est Israël dans sa perfection. Puis il y a aussi le Cantique des Cantiques, ce beau et mystérieux poème, ou plutôt cette collection de poèmes, hein, où il est question d'un bien-aimé et d'une bien-aimée. Alors c'est à facette, vous savez. Le bien-aimé, c'est Dieu, ou c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est Dieu. La bien-aimée, c'est Israël, c'est Jérusalem, c'est le Temple, c'est mon âme, c'est l'Église, c'est surtout la Sainte Vierge. Parce que si c'est la Sainte Vierge, cela met tout le reste d'accord. Les vêpres de la Sainte Vierge utilisent des antiennes tirées du livre du Cantique des Cantiques. Nigra sum sed formosa. Elles sont jolies d'ailleurs, ces antiennes. Nigra sum sed formosa, filii Jerusalem. Ideo dilexit me rex et introduxit me in cubiculum sum. Je suis noire mais belle, fille de Jérusalem. C'est pourquoi le roi m'a aimée et m'a introduite dans ses appartements. Pourquoi noire? Parce que la Sainte Vierge est une princesse ouvrière. C'est une princesse qui travaille. Elle n'est pas de ces princesses qui habitent des appartements somptueux, si, en ce moment. Mais elle les a gagnés à la sueur de son front. Voilà pour l'Ancien Testament. Je voudrais en savoir davantage, mais je suis un peu ignorant de tout cela. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est de la race de David. L'évangile de Saint Matthieu nous dit que Joseph était descendant de David. Vous savez que Saint Matthieu ne s'intéresse dans son évangile, de l'enfance, qu'à Joseph. Parce qu'en bon juif qu'il était, eh bien, la paternité légale comptait plus pour lui que la maternité réelle. Nous savons donc que Joseph était de la race de David. Il ne nous dit rien de la Sainte Vierge. Mais depuis toujours, nous considérons que la Sainte Vierge elle-même était fille de David. C'est une vieille tradition. Cela s'appuie sur ce que nous savons des coutumes juives. En principe, on se mariait dans la tribu. Je dis en principe, il y avait des exceptions. Et puis cela s'appuie aussi sur un texte de l'Écriture qui, à mon avis, est péremptoire. C'est un texte de Saint Paul. Saint Paul nous parle du Christ. Il nous dit, le Christ né de David selon la chair. La Sainte Vierge était donc fille de David, mais comme je le disais il y a un instant, c'était une princesse qui avait des mains rugueuses. Parce qu'elle n'avait pas le moyen de se payer de domestique. C'était une princesse pauvre. Nous ne savons rien de ses parents, sinon ce qu'une tradition avec un petit T, je crois, nous dit. Ils s'appelaient Joachim et Anne. De toute façon, même s'ils ne s'appelaient pas Joachim et Anne, c'était sûrement des personnes très respectables. Et pourquoi ne pas les appeler Joachim et Anne? En tout cas, l'écriture ne nous dit pas leur nom. C'était sûrement des juifs très bien. Il y en avait, vous savez, et je crois qu'il y en a encore. Dans mes meilleurs moments, je pense aux juifs qui vivent actuellement. Et je leur souhaite de tout mon cœur la conversion. Ce sont mes bons moments, cela. Il y avait au temps où le Messie vint, un petit groupe, celui dont je vous parlais tout à l'heure, un petit groupe de juifs admirables, tout prêts à recevoir celui qui était promis, celui qui devait venir. C'est dans ce foyer de Joachim et Anne, appelons-les Joachim et Anne, que naquit Marie. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie? Personne n'est d'accord. Ennuyeux parce que les noms veulent dire des choses. Mais c'est peut-être précisément pour quelque chose de très précis que Dieu ne veut pas que nous soyons tout à fait d'accord. Nous faisons des suppositions et elles sont toutes bonnes. Pour certains, Marie veut dire « dame ». Domina, le féminin de Dominus, le féminin de Seigneur. Pour d'autres, Marie veut dire « étoile de la mer ». Ave Maristella, salut étoile de la mer. Rappelez-vous les grandes invocations de Saint Bernard. In rebus dubis, dans les choses douteuses. In procellis, dans les tempêtes. Respice stellam, regarde l'étoile. Voca Mariam, invoque Marie. Et puis d'autres disent simplement, nous ne savons pas ce que cela veut dire, c'était un nom très 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 commun. Eh bien, c'est beau aussi. Marie était absolument comme tout le monde, tout au moins apparemment. Personne ne s'est aperçu à Nazareth qu'elle n'était pas comme les autres, et elle n'était pas comme les autres. Elle n'était pas comme les autres, nous le verrons tout à l'heure. Je procède par remarque, comme ça au fur et à mesure que je les ai notées, car j'ai noté des choses pour une fois. Marie ne doit pas être séparée de Jésus. Je dis cela par acquis de conscience, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui se méfient du culte marial, qui disent « Mais si vous en donnez trop à Marie, vous allez en ôter à Jésus. » Alors pour leur faire plaisir, je dirais que Marie ne doit pas être séparée de Jésus, mais je n'ai jamais vu un chrétien qui aime Marie sans aimer Jésus. Ça n'est pas possible. C'est encore Saint Bernard qui disait « De Maria nunquam satis ». Au sujet de Marie, il n'y en a jamais assez. Ces mots ont été repris par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, n'ayez pas peur, allez-y. Ne parlez que de Marie et vous ne pourrez pas vous empêcher de parler de Jésus. Parce qu'elle conduit à Jésus. Et si vous aimez vraiment Jésus, il ne peut que vous conduire à sa mère. Ils sont inséparables. Alors, je reprends ma phrase qui a l'air d'être un avertissement, mais finalement, ça n'en est pas un. Marie ne doit pas être séparée de Jésus. En fait, je crois que ce n'est pas possible. On ne peut pas les séparer. Au Moyen-Âge, on représentait toujours la Sainte Vierge avec son enfant Jésus dans les bras. Toujours ou presque. Je ne suis pas assez fort en histoire de l'art pour vous dire. Mais nous avons pris l'habitude depuis de la représenter seule et nous n'en sommes pas morts. Nous n'en sommes pas pires chrétiens pour cela. Donc Marie, premièrement, ensuite Marie ne doit pas être séparée de Jésus, ensuite Marie est la mère de Dieu. Nous avons toujours cru dans l'Église que Marie était la mère de Dieu, mais il se lève dans l'histoire, de temps en temps, un ou deux ou trois hérétiques qui affirment quelque chose qui semble assez péremptoire. Et à ce moment-là, l'Église réfléchit. Non pas qu'elle doute, mais elle se dit, comment pouvoir lui répondre à celui-là? Alors c'est au moment du concile d'Éphèse. Le concile d'Éphèse, c'est 431, je crois. Je ne suis pas sûr. Hein. C'est vers ce moment-là. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Nestorius et qui disait, mais une femme ne peut pas être la mère de Dieu, ça n'est pas possible. Une créature, la mère de son créateur. Entre parenthèses, la même objection a été faite de façon parfaitement stupide dans le journal La Vie, qui était encore catholique à l'époque dans son titre, il y a 2 ou 3 ans. Je me demande si ce n'est pas Georges Hourdin qui disait cela. Qui disait, c'est parfaitement ridicule, comment voulez-vous qu'une créature soit la mère, soit la créatrice de son créateur ? Je suppose qu'il n'avait rien compris. En tout cas, je l'ai lu. Je ne l'invente pas. Nestorius disait les choses, les mêmes choses, mais de façon plus intelligente. On n'a pas fait de progrès depuis. Il pouvait, en effet, paraître étonnant qu'une femme soit la mère de son créateur. Non pas la créatrice de son créateur, mais la mère de son créateur. Alors le concile d'Éphèse se réunit. Vous savez qu'une tradition, dont je ne sais pas ce qu'elle vaut, il y en a plusieurs, fait mourir Marie à Éphèse. Et de toute façon, au 5e siècle, au moment du concile, la ville d'Éphèse portait à la Sainte Vierge une très grande dévotion. Et la population avait pris parti avant les pères du concile. Les pères du concile délibérèrent, et puis finalement, tout en réfléchissant et sous la conduite du Saint-Esprit, on en arrive à voir la lumière. Une mère, ce n'est pas la mère de quelque chose, c'est la mère de quelqu'un. Autrement dit, la Sainte Vierge n'est pas la mère de l'humanité, de Jésus. On est la mère de quelqu'un, encore une fois. Quand on est la mère de quelqu'un, je ne me vois pas, moi, dans ces fonctions. Mais on est la mère de quelqu'un, n'est pas de quelque chose. Alors mettez cela sous forme de syllogisme. Marie est la mère de Jésus. Or, Jésus est Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu. C'est la théotokos. Quand les gens d'Éphèse apprirent la conclusion du concile, le vote et la conclusion du concile, ils illuminèrent. Marie est donc mère de Dieu. J'ai noté ensuite, Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle rachète avec son fils. Et ceci depuis le tout début, depuis son acceptation, depuis son fiat. Il est bien entendu que l'ange lui demande de dire oui ou non. Mais il pense qu'elle va dire oui. Il veut sa liberté, il a besoin de sa liberté, il a besoin de son acceptation. Je dis l'ange, je pense Dieu également, n'est-ce pas ? Et il est bien entendu aussi que la Sainte Vierge a entrevu, non pas dans le détail, mais en gros, les épreuves qu'il attendait, si elle acceptait. Marie connaissait l'Écriture mieux que je ne la connais. Tout à l'heure, j'ai avoué mon ignorance, mais quand je vous ai dit que c'était une juive extraordinaire, elle était extraordinaire par sa vertu, nous en parlerons tout à l'heure si j'ai le temps, mais aussi par ses connaissances. Elle savait l'Écriture et savait l'interpréter. Si vous avez une édition du Nouveau Testament bien faite, dans la marge, on note les références de l'Ancien Testament qui nous sont rappelées par telle phrase ou telle autre. À l'endroit du Magnificat, vous voyez en marge les références précipitées. C'est un déluge de références. Parce que le Magnificat, la Sainte Vierge l'a improvisé, si vous voulez, mais elle l'a improvisé en mettant bout à bout des citations de l'Écriture. Elle savait cela par cœur. Elle savait cela par cœur, et elle savait cela probablement, oui sûrement, je dis probablement, avec le sens, le vrai sens, le grand sens messianique. Par exemple, quand elle entend l'ange lui dire « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Je suis à peu près certain qu'elle se rappelle une prophétie de Sophonie que vous connaissez peut-être parce qu'on la chantait il y a quelques années dans les églises. « Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi. » C'est un texte messianique. « Réjouis-toi », c'est la façon dont on saluait, dont on salue en grec, c'est « laver ». Fille de Sion, mettez Marie à la place, si vous voulez, ce sera un autre sens à donner au mot. Car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur. Le Seigneur est avec vous. Vous allez devenir mère d'un enfant que vous appellerez Jésus, et il sauvera son peuple. Voilà pourquoi on l'appellera Jésus. Je suis à peu près certain que la Sainte Vierge a compris qu'elle était choisie pour être la mère du Messie. Elle savait tout cela. Elle savait l'Ancien Testament. Elle entrevoit donc ce qu'elle aura à souffrir, en gros, encore une fois, pas en détail. Et puis ensuite, je dirais qu'elle le souffre volontiers. Elle fait plus qu'accepter, parce que dans l'acceptation, il y a une réticence. Elle veut cela positivement, en même temps que Jésus. Jésus a voulu sa passion. La Sainte Vierge l'a voulu avec lui. Quand elle est au pied de la croix, elle se tient debout. Elle n'est pas effondrée. Si on lui demandait à ce moment, « Voulez-vous que ça cesse ?» Elle répondrait non. Elle rachète le monde avec son fils. Marie a été conçue immaculée. C'est-à-dire que dès le premier moment de son existence, elle a été préservée de la tâche originelle. Elle a été en la grâce de Dieu. Nous appuyons sur ce texte de l'Écriture que vous récitez tous les jours, pleine de grâce. Je vous salue pleine de grâce. Comment voulez-vous qu'elle soit pleine de grâce s'il y a eu dans son existence un moment où elle n'a pas été en grâce précisément? On a toujours cru dans l'Église que Marie avait été conçue immaculée. Le dogme a été défini au siècle dernier, en 1854, par le pape Pie IX, mais on le croyait avant. Le Concile de Trente, par exemple, en nous rappelant que le péché originel a infecté toute la race humaine, réserve le cas de la Sainte Vierge, sans prendre position. Il faut tout de même signaler, parce que c'est assez curieux, que parmi les pères de l'Église, le dernier, qui est le grand chantre de la Sainte Vierge, Saint Bernard, ne croyait pas en l'Immaculée Conception. Il n'était pas hérétique parce que le dogme n'avait pas été défini encore. Je suppose que si on l'avait défini de son vivant, il se serait rangé. Il se serait soumis. Mais il n'y croyait pas, je vous le signale. Et si quelqu'un a aimé la Sainte Vierge, si quelqu'un a su la chanter, c'est bien lui. Marie, parmi les suites du péché originel, en a connu certaines, en a ignoré d'autres. Elle a connu les souffrances et probablement la mort. Elle n'a pas connu la tendance au péché. Et pourtant, elle aurait pu pécher. Elle aurait pu pécher comme Ève et Adam le firent, probablement d'un de ces péchés de l'âme qui sont l'orgueil ou sa banlieue. Les théologiens, ce n'est pas l'Église qui l'enseigne, mais enfin, les théologiens pensent dans leur ensemble que jusqu'à l'Annonciation, Marie pouvait en principe pécher, mais ne l'a pas fait. Mais qu'après son fiat, elle ne pouvait plus pécher. Elle avait été confirmée, c'était tout de même la moindre des choses de la part de Dieu, confirmée dans sa perfection. Mais elle pouvait grandir en grâce, toute pleine de grâce qu'elle était. Parce que dans ces affaires surnaturelles, plus on en a, plus on en veut. Et plus on en veut, plus on en a. Elle a grandi en grâce jusqu'à son dernier soupir, jusqu'à son dernier instant. Marie a été élevée aux cieux avec son corps, c'est l'Assomption. Il n'y a rien dans l'Écriture de bien net, c'est implicite. Mais la tradition, depuis le 4e et le 5e siècle, nous présente la Sainte Vierge comme n'ayant pas laissé de reliques, comme étant au ciel avec son corps. Je dis le 4e et le 5e siècle parce que cette tradition est plus ancienne en Orient qu'en Occident. Ce qui ne veut pas dire qu'avant on ne le croyait pas. Écoutez-moi bien. Hein. Cela veut dire que nous n'avons pas de traces plus anciennes. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire que tout à coup, au IVe siècle, en Orient, on se dit « la Sainte Vierge, mais oui, ça y est, la voilà au ciel avec son corps ». Cela veut dire que nous n'avons pas de traces plus anciennes en Orient. En Occident, il faut repousser d'un siècle, dans notre direction. Mais il est bien certain, et c'est tout de même un peu frappant, que nulle part, on n'est présenté des reliques de la Sainte Vierge. Et Dieu sait si on en a présenté des reliques des saints au cours des siècles, et en particulier dans les premiers. Quand on n'avait pas de reliques, on en fabriquait. Vous avez des quantités de têtes de Saint Jean-Baptiste. Vous avez l'embarras du choix. Vous avez des reliques de la Sainte Vierge, mais ce sont des objets qui lui ont appartenu. Je ne sais pas ce que vaut le voile de la Sainte Vierge qui se trouve à la cathédrale de Chartres et que j'ai vu, qui est exposé de temps en temps dans un joli reliquaire. Il n'est pas en bon état, mais enfin, ce serait presque un argument en sa faveur. Il est plutôt mité. Mais le reliquaire ne l'est pas, il est joli. Je sais parfaitement ce qu'il faut penser des jolies petites chaussures de la Sainte Vierge qu'on trouve à Notre-Dame de Liesse et dont les spécialistes vous disent qu'ils ont été fabriqués au XVe siècle. Mais quant aux reliques proprement dites, on n'en a jamais présenté. En tout cas, le pape Pie XII, en 1950, le jour de la Toussaint, devant une assemblée d'évêques et de cardinaux tout à fait impressionnante, a défini le dogme de l'Assomption. Il me reste 2 minutes et 2 petites choses. Marie est médiatrice de toute grâce, mais ce n'est pas encore de foi. Je pense que cela viendra un jour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous n'obtenons rien que par elle. Et c'est tellement logique, puisque tout nous vient par Jésus et Jésus nous vient par elle. Autrement dit, je reviens à ce que je vous disais il y a un instant, De Maria numquam satis. N'ayez pas peur d'aller à Marie, tout vous vient par elle, y compris celui par qui tout vient, c'est-à-dire Jésus. Le culte de la Sainte Vierge vous apportera tout, la médiatrice de toute grâce. Et j'ai mis à la fin, je suppose que j'ai voulu mettre là, le culte de la Sainte Vierge. Je vais terminer, il me reste 1 minute. Je vais vous commenter, par exemple, dans les litanies, cette invocation que j'aime beaucoup parce que je me sens à l'aise. Refugium peccatorum, refuge des pécheurs. Si vous voyez ou sentez pécheur un jour, allez voir la Sainte Vierge. N'ayez pas honte. De toute façon, si vous allez la voir, vous n'aurez pas honte. C'est qu'il y a à Paris un sanctuaire qui est un petit peu déserté en ce moment, et je le regrette. Il s'appelle Notre-Dame des Victoires, où la Sainte Vierge est vénérée sous ce vocable. Le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Il y avait au siècle dernier, à Notre-Dame des Victoires, un curé qui s'appelait l'abbé Desgenette, qui se désolait de constater que son église restait vide chaque dimanche. Un dimanche matin, je crois que c'était en janvier, le 16 janvier, si j'ai bonne mémoire, pendant la messe, il eut l'inspiration de consacrer sa paroisse au cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Il y avait ce matin-là aussi peu de monde que d'habitude, les bancs étaient vides, et le jour même, pour les vêpres, le curé sortit de la sacristie et se dirigea vers la chaire, mais eut du mal à atteindre la chaire parce que l'église était comble. Il fallut presque le porter. Actuellement, l'église Notre-Dame des Victoires est un peu dans l'état où elle était avant la consécration faite par ce curé des Genettes. Je ne sais pas si c'est la faute de la Sainte Vierge ou la nôtre, mais je croirais plutôt que c'est la nôtre.